les livres sont une merveilleuse façon de voyager, dans le temps, l'espace et les possibles. Cependant, ils sont aussi des ponts avec les autres médias, et au-delà des pages, est là pour vous le démontrer. Accepterez-vous l'invitation ? Bonne et heureuse année, chers auditeurs. Pour commencer l'année sur une bonne résolution, Au-delà des pages va tenir ses promesses de faire des ponts entre les médias en parlant du sujet qui les relie et qui souvent fâche, les adaptations. Pour commencer, qu'appelle-t-on une adaptation dans le cadre de la création artistique ? Il s'agit le plus souvent de prendre un récit mythologique, religieux ou romanesque, et de le raconter via un autre médium que celui utilisé au départ. Et si de nos jours, adaptation est égal à portage à l'écran, les adaptations existent depuis bien plus longtemps que le cinéma. En effet, les nombreuses peintures, sculptures et pièces de théâtre inspirées de récits mythologiques ou bibliques sont stricto sensu des adaptations. Ces adaptations ont alors deux buts. Soit raconter la dite histoire en utilisant un médium permettant une diffusion plus large, on peut citer ici les nombreux tableaux d'inspiration biblique qui pouvaient raconter à une population largement illettrée les bases de leur foi. L'autre raison est la volonté de l'artiste de réactualiser une histoire pour la faire redécouvrir à ses contemporains ou de la faire correspondre à leur univers et façon de penser. On peut citer les pièces de théâtre qui réinventaient certains mythes. Roméo et Juliette de Shakespeare, qui raconte le mythe de Pyrrhame et Thisbé, raconté pour la première fois par Ovide dans ses Métamorphoses, ou reprendre des pièces de théâtre antique, l'avare de Molière reprenant la marmite de Plaute.
Hélas, mon pauvre argent ! Mon pauvre argent !
Ces quelques bases étant posées, venons-en à ce qui sera le sujet principal, l'adaptation cinématographique d'œuvres littéraires. L'adaptation d'œuvres littéraires remonte aux origines du cinéma. Pour mémoire, le cinéma est inventé en 1891 par Edison et popularisé en 1895 par les Frères Lumière. Les adaptations les plus anciennes dont on connaît la trace nous viennent d'un des pionniers du cinéma, Georges Méliès, qui, en 1899, réalise Cendrillon et le roi Jean, tirés de la pièce de Shakespeare, réalisant du coup la première adaptation de Shakespeare au cinéma. En parlant de première, c'est en 1900 que le réalisateur Arthur Marvin réalise la première adaptation de Sherlock Holmes sous la forme d'un court-métrage de 30 secondes. En 1914, Cecil B. DeMille sort le premier long-métrage qui se trouve être une adaptation, Le mari de l'Indienne, selon la pièce du même nom d'Edwin Milton. Dès lors, la machine s'emballe, et les adaptations fleurissent jusqu'à nos jours. Pour vous donner une idée, chers auditeurs, dites-vous que 58% des films sortis entre 1994 et 2013 sont des adaptations. L'on peut expliquer cela par le fait qu'une adaptation est pour les producteurs un projet relativement sécurisé et rentable. Après tout, elle possède déjà un cercle d'amateurs, un scénario écrit et possiblement des suites. Bien que la réalisation d'une adaptation soit un moyen pour les réalisateurs et les producteurs de sécuriser un certain nombre d'entrées, le passage du papier à l'écran n'est pas évident, les deux médias ayant des procédés narratifs différents. Par exemple, une description longue, comme celle de la cathédrale dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, sera dans un film aisément remplacée par un plan-séquence de la même description. D'une manière générale, au cinéma, on n'explique pas si l'on peut se contenter de montrer. A contrario, une scène qui aurait mis peu de temps à être écrite et qui durera peu de temps à l'écran nécessitera peut-être des semaines de préparation, voire le développement d'effets spéciaux rien que pour elle. L'un des problèmes majeurs des adaptations et certainement celui qui déchaîne le plus les passions, est la question de la fidélité à l'œuvre, alors que les façons de narrer du cinéma, mais aussi la vision du réalisateur et de son équipe, entraîneront forcément des modifications. La coupe est l'une des modifications les plus courantes et la plus souvent visée par les critiques. Elle est pourtant nécessaire, comme le prouve l'histoire du film Les Rapaces, réalisé par Von Stroheim en 1924 et adapté d'un roman de Frank Norris. Stroheim voulut mettre tout le contenu du livre dans son film. Le résultat fut un film de 10 heures. Il se rendit compte que le film ne pouvait pas sortir sous ce format et se força à le réduire de moitié. Cependant, la MGM le trouvait encore trop long et le réduit à 2h30 sans son aval. Le résultat fut un film extrêmement incohérent. En revanche, un excellent exemple de l'importance des coupes dans une adaptation se trouve être la série du Seigneur des Anneaux, réalisée par Peter Jackson, d'après les romans éponymes de Tolkien. Longtemps réputé impossible à porter à l'écran, Peter Jackson a réussi un tour de force en réalisant 3 bons films et 3 bonnes adaptations. Certes, tout n'y est pas. Il manque des personnages, voire des chapitres entiers. Certains personnages se voient étoffés et le rythme est bien plus soutenu que dans le chef-d'œuvre de Tolkien. Mais cela ne trahit pas l'esprit et le fond de l'œuvre. La forme seule change. Peter Jackson m'offre une transition toute trouvée pour parler des ajouts, autre mécanisme de l'adaptation cinématographique. En effet, son adaptation du Hobbit en est remplie pour pouvoir en faire 3 films de 2h30 chacun, ce qui est beaucoup trop. Certes, la plupart des ajouts, si l'on excepte le personnage de Toriel, se justifient d'un point de vue interne. Néanmoins, cela ralentit considérablement le rythme en étirant au maximum chaque scène. Cela dit, les ajouts peuvent être tout à fait valables, voire essentiels, à une certaine cohérence du film. Par exemple, une narration par le personnage principal nécessite rarement une justification dans un roman. Le lecteur, inconsciemment, se dira qu'il lit le journal du personnage. Mais au cinéma, cela passera beaucoup mieux si l'on voit le personnage écrire son journal, ou même devenir le véritable auteur du roman, ou tout simplement raconter son histoire à un tiers. Un ajout peut être aussi justifié pour permettre au réalisateur de passer un message qui lui est personnel. Attaquons désormais la partie épineuse de cet exposé. Quelle liberté le réalisateur et son équipe possèdent pour adapter une œuvre? Je vous préviens, chers auditeurs, l'avis qui va suivre est personnel et manque très certainement d'objectivité. Comme nous l'avons vu, les changements sont de toute façon une obligation à cause des différences entre le papier et l'écran. Cela ne veut pas dire, loin de là, que l'équipe du film peut tout faire. Ou alors, il faut se dire librement adapté et pas adapté de. De fait, si le changement n'agit pas sur le fond du récit et son message, alors soit. Le réalisateur est libre de changer ce qu'il veut. Du physique des personnages, les yeux d'Harry Potter qui changent de couleur entre le roman et le film, au lieu où se déroule l'intrigue, à moins qu'il ne s'agisse d'un élément scénaristique important. Il peut même rajouter des personnages et intrigues si cela enrichit le contenu, tout simplement participe à rendre l'adaptation plus divertissante à l'écran. Dans ce cas, pour moi en tout cas, il n'y a pas de problème. De plus, dire le contraire serait refuser aux réalisateurs, costumiers, décorateurs et autres le droit de s'exprimer au travers du film, faisant d'eux de simples faiseurs au service de l'auteur. Pour résumer ma pensée, une bonne adaptation peut parfaitement changer la forme, mais doit respecter le fond. Comme le veut la coutume d'au-delà des pages, je vais désormais vous conseiller quelques lectures, mais aussi en accord avec le sujet de cette émission, plusieurs visionnages. Tout d'abord, pour compléter les connaissances et idées développées dans cette émission, je vous conseille le visionnage de la vidéo « Pourquoi j'ai raison et vous avez tort, les adaptations » du youtubeur spécialiste du cinéma Durendal. Pour les plus courageux d'entre vous, je vous conseille la lecture de « L'adaptation cinématographique » publié en 2014 aux éditions Marais Martin. Il s'agit d'une véritable mine d'or, mais sa lecture peut s'avérer ardue et certains chapitres sont entièrement en anglais. Si vous voulez découvrir une adaptation très réussie et par la même occasion découvrir une œuvre phare de la littérature du XXe siècle, je ne saurais que trop vous conseiller l'adaptation de Lolita, sortie en 1997 et réalisée par Adrian Lyne, d'après le roman éponyme de Vladimir Nabokov. Je ferai une émission sur ce roman un jour. Il s'agit du deuxième portage du livre. Le premier date de 1962 et a été réalisé par Stanley Kubrick. Et à mon sens, il est le plus abouti, à la fois respectueux de l'œuvre originale, dans la construction du récit et ses personnages, mais n'hésitant pas à prendre de liberté pour adoucir un peu le personnage principal et gagner en clarté en supprimant personnages et passages. Le film est de plus servi par son thème musical, magnifique, et une ambiance fouillée, reproduisant les États-Unis de la fin des années 40. Une véritable perle. J'aimerais maintenant vous parler d'une adaptation d'un roman qui m'a toujours plu, mais dont le portage m'a déçu. Je suis une légende, réalisée en 2007 par Francis Lawrence, et tirée du roman éponyme de Matheson. Soyons d'abord d'accord sur un point. Je ne considère pas que le film soit mauvais en lui-même. Il est bien réalisé, rythmé et possède des idées intéressantes. Mais voilà, il détruit totalement le message du roman. Le roman nous offrait la lutte d'un homme banal, Robert Neville, qui ne comprend pas la situation dès le départ, mais se forme seul, pour finir par une morale amère sur le renouvellement des sociétés et une réflexion sur la barbarie. Là où le film, sans vous gâcher la fin, nous montre un scientifique militaire brillant, suréquipé, qui comprend la situation depuis le départ et tente de sauver le monde. Pour se terminer par une morale indiquant l'importance du sacrifice, de la famille, et de l'espoir pour surmonter toutes les épreuves. Un bon film, certes, mais en termes d'adaptation, une trahison de l'œuvre. Mais vous pourriez vous dire, non sans raison, il ne respecte pas son idée. Le film qu'il descend en flammes, il le descend car il n'est pas fidèle. Quel hypocrite! Laissez-moi donc vous conseiller un dernier portage. Une série télévisée cette fois-ci. Il s'agit du Sherlock, réalisé pour la BBC par Stephen Moffat, et retraçant les aventures du célèbre détective d'Arthur Conan Doyle. La série est-elle fidèle? Non, pas vraiment. Elle transporte Sherlock de nos jours, donne une place bien plus importante à Moriarty, comme toutes les adaptations, cela dit, et joue beaucoup plus sur le comique que les romans. Et alors? Sherlock reste un génie brillant, mais imbuvable et socialement inadapté. Watson, un homme assez ordinaire s'attachant malgré lui au premier, et l'aidant. Les enquêtes transposées à notre époque incluent merveilleusement la technologie moderne, et le format de la série permet de garder le rythme assez rapide des romans de Conan Doyle. Une adaptation qui renouvelle le mythe en le respectant. Vous retrouverez comme toujours, sur le site de Jet FM, la liste des ouvrages cités. Merci encore de votre attention, chers auditeurs, et recevez mes vœux une seconde fois. Encore merci à l'équipe de Jet FM, à qui j'adresse mes vœux également. Voilà, le temps qui m'est imparti touche à sa fin. Aussi, j'espère vous avoir donné l'envie de découvrir les ponts entre livres et films. Les livres sont une merveilleuse façon de voyager, dans le temps, l'espace et les possibles. Cependant, ils sont aussi des ponts avec les autres médias. et au-delà des pages est là pour vous le démontrer. Accepterez-vous l'invitation ?